Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Voilà, donc c'est le cours de propédeutique, c'est le quatrième, si je regarde bien mes notes, oui, c'est le quatrième de la série.
C'est dogmatique.
Hein, c'est ça.
C'est dogmatique. Quatrième dogmatique.
Oui, mais on est en liturgie, là.
Ah.
Mais c'est quatrième aussi, je crois, oui, oui. Oui, mais comme on alterne, là, ce soir, si j'ai bien vu le programme, c'était liturgie, donc j'ai préparé une liturgie. Et c'est donc toujours des exposés pour la propédeutique, c'est-à-dire s'adressant à des personnes qui sont des commençants ou des recommençants, puisqu'on n'arrête pas de commencer, en fait, ou qui sont contents, effectivement, de vérifier les bases qu'ils ont pu acquérir jusque-là. Voilà, donc c'est donc mon propos, comme dans les autres fois, mais je le dis à chaque fois pour qu'on soit quand même bien d'accord, c'est de donner des informations quand même basiques, simples, et moi-même de trouver un langage qui soit un langage quand même simple, pas trop technique, accessible à tout le monde. Et... parce que la liturgie, ça peut s'étudier, vous savez très bien, il y a des spécialistes de la liturgie, il y a des savants, des gens extraordinaires, que j'ai utilisé les autres années, d'ailleurs, pour faire des cours d'un niveau différent. Mais là, donc, je propose, donc, c'est ce qui m'a été demandé par Mgr Joseph, ces cours plus simples. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai annoncé, c'est, je crois que c'est sur le site aussi, c'est l'étude de l'office de vêpres. C'est-à-dire, après des considérations de théologie assez générales sur la liturgie, ce que j'ai fait les fois précédentes, maintenant, d'abord, je vais prendre un petit peu les offices avec les heures qui restent maintenant devant nous, un peu les offices l'un après l'autre, parce que c'est vraiment très intéressant de voir comment c'est fait, comment ça fonctionne. C'est tellement intelligent, tellement bien organisé, toutes ces formes de prières liturgiques que nous avons dans notre Église orthodoxe, et que l'Église orthodoxe a quand même conservé d'une certaine façon. L'Église orthodoxe, donc c'est pas du tout, négatif à l'égard des autres chrétiens, mais l'Église orthodoxe apparaît un petit peu comme un peu le conservatoire de la tradition dans le domaine liturgique, comme dans le domaine dogmatique, d'ailleurs, comme dans beaucoup de domaines. Bon, c'est peut-être la qualité de notre Église, nous n'avons certainement pas toutes les qualités, mais une des qualités que nous avons, c'est d'être quand même l'endroit où tu peux retrouver quelque chose qui vient de l'Église très ancienne et que tu le retrouves sous une forme encore vivante et utilisable. Donc l'Église orthodoxe n'est pas un musée de la tradition patristique, mais je pense qu'elle est pas non plus une réserve, comme on a des réserves d'espèces animales en voie de disparition, mais je ne sais pas comment dire, c'est un peu le trésor du patrimoine liturgique des temps anciens, mais qui est quand même accessible pour nous maintenant. Donc c'est très important. C'est pour ça que soit on appartient à l'Église orthodoxe et on en vit vraiment, soit en tout cas, j'ai des amis qui ne sont pas orthodoxes, ils sont super contents d'assister à des offices orthodoxes pour voir comment ça fonctionne et voir des actions liturgiques qui ont disparu de leur propre Église. Hein, parce que beaucoup d'offices qui sont conservés effectivement dans ces conservatoires liturgiques sont des offices qui ont existé dans l'Église latine, beaucoup, c'est archi fréquent. Des exemples, on peut en trouver. Et c'est un petit peu le cas de l'office de vêpres, d'ailleurs, puisqu'on parle de ça. Moi, j'appartiens à une génération où l'office de vêpres, avant Vatican II, avant le concile de Vatican II, l'office de vêpres existait encore. Non seulement dans les monastères, bien sûr, mais même dans les paroisses. Il y avait des paroisses où on disait le fils de vêpres le samedi soir, par exemple, ou le dimanche soir, on annonçait vêpres. Oui. Alors, ça, c'est vraiment ne se trouve plus maintenant, à ma connaissance, ou alors peut-être dans des églises, des paroisses catholiques très, très traditionnelles, disons, très concile de Trente, très tridentine. Mais autrement, donc, ce qui fait que finalement, l'Église orthodoxe apparaît comme l'endroit où ces choses-là se conservent. Et bon, je voudrais dire aussi que, comme toujours, je suis conscient de parler à un moment précis, de ne pas parler à n'importe quel moment. J'essaie de m'exprimer, tant bien que mal, à un moment où la vie liturgique est particulièrement intense, c'est le moment du carême. Le grand carême, pour les orthodoxes en tout cas, pour les catholiques sûrement, pour les protestants non, c'est très, très différent, mais pour nous les orthodoxes, le grand carême c'est vraiment une période de renouveau, de redécouverte de la liturgie. C'est pas seulement un renouveau spirituel, esthétique, c'est ce qu'on sait très bien par le jeûne, la prière, la confession des péchés, on sait ça, mais c'est vraiment un moment c'est comme un stage liturgique, le grand carême. On découvre, par exemple, ces grandes liturgies attribuées à Saint Basile que nous célébrons le dimanche matin, on ne l'a que pendant le carême. L'office des présanctifiés, on ne l'a que pendant le carême. Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres offices, les grandes complies, l'acatis à la Mère de Dieu, qu'on entend à Pessur pendant d'autres moments de l'année. Mais enfin, disons qu'il y a, un recyclage, je dirais, liturgique qui se fait pour nous pendant cette période-là. C'est une grande période liturgique, le carême, une grande période liturgique. Donc il n'est pas anodin d'aborder justement cette question des offices et de l'office de vêpres en particulier. Alors l'office de vêpres, je dois vous dire que moi j'ai préparé plusieurs têtes de chapitre, évidemment, comme d'habitude, mais je dois vous indiquer un peu des bibliographies, mais vraiment archi simples. Je vous conseille d'aller sur l'article vêpres dans le site sagesseorthodoxe.fr. Ce qui est un site paroissial, mais il y a un article là sur l'office des vêpres, et c'est assez c'est pas complet évidemment, mais ça donne quand même une bonne présentation de la théologie de l'office, parce que moi ce que j'essaie de faire là, c'est pas seulement des cours de liturgie, parce que ça peut être fait par des spécialistes surtout, mais plutôt des cours de théologie de la liturgie, c'est-à-dire quel est le sens de ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le fait évidemment, mais quel sens est-ce que ça a, qu'est-ce que nous cherchons à exprimer, à confesser et à expérimenter, si je peux employer ce mot qui n'est pas très bon français, mais quelle expérience est-ce que nous espérons faire en célébrant ces offices? Donc c'est ça l'aspect théologique, disons. Pour dire autrement, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit, par exemple, à ce moment-là? Est-ce que le Christ est présent dans nos offices? Ce sont beaucoup de questions très importantes, mais qui sont d'ordre théologique, qui ne sont pas d'ordre strictement liturgique. Donc, cet article sur sagesseorthodoxe.fr, je trouve qu'il peut rendre service. Je vous renvoie également au livre de prière publié par la métropole roumaine, aux éditions Apostolia, page 130 en particulier. Ce livre de prière donne les principales prières de l'office de vêpres. Il est fait pour les fidèles. Il n'est pas fait pour les prêtres particulièrement, il est fait pour les fidèles, et les fidèles peuvent, avec ce qui est dans ce très beau volume, ils peuvent célébrer les offices des vêpres ou y participer. Donc c'est un bon outil, un bon instrument, et si vous pouvez aller lire ce qu'il y a là-dedans, vous allez vous instruire sur ce sujet. Autre référence bibliographique, c'est ce que j'ai apporté ici, donc je le montre si des personnes regardent, je ne sais pas, ça s'appelle le Hieratikon, Office au pluriel et Liturgie au pluriel, publié à Cheftogne en l'an 2000, et dans ce volume, à partir de la page 17, il y a donc les offices des vêpres sous des différentes formes sous lesquels on les trouve. Donc, Hieratikon, Office et Liturgie, édition de Cheftogne en 2000. Donc, ça, c'est un livre. Moi, j'avoue, c'est ce que j'utilise le plus volontiers. C'est très complet. Il y a beaucoup d'éléments sur l'ordre de la célébration. Pas seulement, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'il y a d'autres éditions, mais sûr, très intéressantes. Par exemple, celles qui sont faites au monastère du Père Placide, à Saint-Antoine, mais qui sont vraiment. Faites cette édition des offices, à mon avis, sont proposées pour des personnes qui vivent dans les communautés monastiques, beaucoup plus, mais paroissialement parlant, puisque là, je pense que je m'adresse à des personnes qui sont surtout, qui font leur salut, surtout en paroisse. Ça, je trouve que c'est vraiment très très bien. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Eh bien, à part ça, dans les domaines du psautier, je vais parler des psaumes. Il y a une nouvelle édition, enfin, encore une nouvelle édition, encore une nouvelle traduction des psaumes du psautier. Je ne sais pas ce que ça doit faire, la 300e, mais qui est très intéressante et qui a été faite dans le cadre de notre métropole aussi, au monastère de Canto, qui s'appelle monastère La Théotokos et Saint-Martin, et ça a été publié là cette année, c'est l'année juste précédente, en 2014. Et donc c'est intéressant, c'est un nouveau travail pour essayer toujours d'améliorer le texte des psaumes. Et puis il y avait, alors c'est un peu plus ancien, 1979 dans l'édition que j'ai, la traduction des psaumes proposée par le père Placide de Sayes, s'appelait les psaumes au pluriel, bien sûr, prière de l'Église, prière au pluriel également. Et dans ce volume-là, alors il y a un passage très 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 intéressant à mon avis, c'est l'introduction qui est faite par Père Placide. Alors cette introduction concerne les psaumes, ne concerne pas les vêpres, si vous voulez. Mais je vous en parle quand même parce que, comme je vais le dire tout de suite, la place des psaumes dans nos offices, et particulièrement dans les vêpres, est une place extraordinairement importante. Donc là, l'accès au psautier, c'est un accès qui s'approfondit, qui s'étudie, qui s'améliore par l'étude. Et l'introduction faite par Père Placide au psautier, psaume, prière de l'Église, ça c'est vraiment bien. Il fait un résumé, si vous voulez, une synthèse de la conception patristique des offices et de la psalmodie. Je trouve ça vraiment très très bien.
Édition de quelle année? Édition.
Comment?
Celle du Père Placide, de quelle année?
1979. Elle a peut-être été refaite. Hein. Alors elle existe sous une forme plus grande, une forme plus petite. Voilà, après ça, il y a eu d'autres. Il y a eu une tradition très intéressante qui avait été faite par cette religieuse qui s'appelait Mère Anastasia, oui, c'est ça, et qui a été longtemps au monastère de Bussy, qui est décédée d'une grande maladie il y a quelques années. Elle avait fait un gros travail avec le père Boris Borinskoy, elle avait fait un très beau travail de présentation du psautier en langue française. Mais de manière renouvelée un peu avec des notes, un apparat critique comme on dit, c'est vraiment très intéressant. Bon, bah, là on n'est pas dans un cours trop technique. Hein, je vous donne ça pour que vous ayez des instruments. Et moi, ce que j'ai envie de présenter donc pour tout le monde, pour moi-même aussi, parce que j'essaie de me recycler moi-même aussi grâce à ces cours. Donc j'ai une série de chapitres, je regarde l'heure, je voudrais bien arriver à faire tout ce que j'ai préparé. D'abord, je pense que ce qui est important, c'est de se mettre d'accord sur le sens de l'office de vêpres. Quel sens est-ce que ça a, en quelque sorte, pourquoi, si vous voulez. Alors, là, c'est ce que vous allez retrouver sur l'article du site Sagesse Orthodoxe. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est peut-être des choses que vous savez, mais donc je rappelle que l'office des vêpres correspond à la sanctification d'un moment précis du temps. L'ensemble de nos offices concourt à cela, concourt à la sanctification du temps. L'office des vêpres, comme son nom l'indique, c'est un office vespéral, donc un office du soir. Hein. Et il est célébré à la tombée de la nuit, c'est-à-dire au début d'un jour. Parce que ici, nous avons la conception juive, comme toute notre tradition chrétienne, vous le savez très bien, est issue du judaïsme. Donc nous sommes des juifs spirituels, comme il a été dit, c'est dont nous sommes très, très fiers d'ailleurs. Or, dans le judaïsme, le jour commence le soir précédent. Donc l'office de vêpres est l'office qui commence une journée. Et il commence une journée avec cette arrivée de la nuit. Et c'est dans cette arrivée de la nuit que va jaillir la lumière. Donc c'est un office de la lumière, un office de la lumière qui se célèbre dans la nuit commençante. C'est pour ça que ça, ceci est très important, je le dis à tous mes amis qui aimaient bien écouter ce qu'on dit ici, d'essayer de célébrer les offices à l'heure prévue, c'est-à-dire de ne pas célébrer un office de vêpres trop tard, parce que c'est la nuit est déjà commencée, c'était pas la même chose, et de ne pas le célébrer trop tôt non plus, comme on fait quelquefois par obligation, à 3h de l'après-midi, je ne sais pas, alors qu'on est en plein jour, et quand on va chanter Lumière joyeuse, ça n'aura pas le même sens. Je pense qu'il faut célébrer les offices là où ils doivent être, parce que c'est là qu'ils prennent tout leur sens cosmologique en particulier. Donc c'est un... C'est un moment très important, mais c'est un moment qui rappelle la création aussi, parce que là, tout le monde sait, pour avoir lu la Bible, que donc le Dieu crée en appelant à exister des réalités qui n'existent pas. C'est absolument incompréhensible pour nous. Il fait être par sa seule volonté, il fait être. Or, cette action, cette volonté que soient des créatures qui n'étaient pas, cette volonté s'exprime justement dans l'office de Vêpres. Et donc, il dit, cet office exprime que chaque moment de l'existence dépend de la volonté créatrice de Dieu et en reçoit son immense valeur. C'est-à-dire que la journée qui commence, c'est une journée créée par Dieu, voulue par Dieu. Voulue par Dieu, donc donnée par Dieu, donc infiniment précieuse. Une journée qui ne nous appartient pas et que nous allons rendre aussi à Dieu avec, tout le respect et la responsabilité que nous pouvons avoir. Donc ça, comme je le disais à l'instant, donc c'est très très important, l'idée que c'est le vouloir divin qui fait être. Et alors, dans les ténèbres, resplendit la lumière, c'est ça le sens de l'office de Vêpres aussi. Il scelle la victoire de la connaissance, de l'intelligence, la vie de l'esprit, mais la vie divine aussi, la vie du Christ. Au fond, c'est un office qui est pénétré du sens même de la résurrection, si on pousse un petit peu. Il n'est pas uniquement un office qui se réfère à la lumière cosmique, mais il s'agit de la lumière divine, il s'agit de la lumière qui illumine. Nous cherchons l'illumination dans la vie de l'Église, notre vie chrétienne. C'est une vie de l'esprit, c'est une vie de lumière incorporelle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la célébration de Vêpres, elle a lieu tous les soirs où l'on peut le faire, parce que c'est tous les jours que ce grand mystère est présenté. Mais cela dit, c'est vrai que c'est surtout le samedi soir, je crois que dans la pratique paroissiale, c'est le samedi soir, donc, on célèbre la vie des Vêpres. C'est là, d'ailleurs, qu'il a son sens le plus fort, parce que c'est vraiment la préparation à la résurrection, c'est lié aussi au Shabbat, en fait, hein, c'est très, très important. Le fils des Vêpres, le samedi soir, il arrive au moment où les Juifs terminent le Shabbat. Hein, c'est-à-dire que le Shabbat commence pour les Juifs, il commence le vendredi soir, et se termine le samedi soir. Bien, c'est à ce moment-là que le fils des Vêpres est célébré. Donc il y a une articulation aussi très importante entre le judaïsme et l'Israël élargi qu'est l'Église, si vous voulez, par l'office des Vêpres le samedi soir. Et donc, effectivement, c'est une manière de célébrer le retrait, puisqu'on sait que le samedi, en tant que Shabbat, c'est le jour du retrait de la divinité. Or, Dieu se retire. La lumière divine, Dieu lumière, si vous voulez, se retire, se rétracte. C'est une sorte d'extinction de la lumière divine pour s'allumer à nouveau, apparaître à nouveau dans le jour suivant, qui est le huitième jour. Donc ça, c'est assez important. Dieu, c'est quelque chose qui est très beau, ça, de point de vue théologique et spirituel, mais je pense que le retrait de Dieu dans le Shabbat, justement, cette rétraction, cette concentration, cet effacement aussi de la divinité, c'est aussi une manière de se ramasser comme pour bondir. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment font les animaux, enfin les chats en particulier, c'est en train d'intéressant. Pardon, je prends toujours des exemples un peu puérils pour me faire comprendre, mais le chat est un animal qui a une capacité de se rassembler en lui-même pour bondir, et bondir à des distances vraiment assez extraordinaires quand même. Et alors je pense que Dieu fait ça en quelque sorte. Il y a un bondissement de la lumière dans le huitième jour, mais ce bondissement, il prend son origine dans un extraordinaire rassemblement sur soi, concentration sur soi, qu'on appelle le Shabbat, et qui n'est pas une façon de Dieu de se reposer. C'est ridicule de dire que Dieu se repose, on dirait vraiment que Dieu est fatigué, c'est une offense à la divinité de dire une chose pareille. Non, Dieu se concentre lui-même, se rassemble pour mieux s'exprimer, pour mieux éclairer, pour mieux triompher, et en fait c'est l'essence même de la résurrection. La résurrection, elle est célébrée justement à l'articulation du Shabbat et du huitième jour, et la résurrection, c'est justement le moment où la divinité s'étant rétractée, explose en quelque sorte. La résurrection est une explosion de la lumière divine et de la divinité elle-même. Donc ça, si vous voulez, ça explique l'office de Vêpres. C'est pour ça que c'est pas n'importe quoi. Il ne faut pas célébrer l'office de Vêpres n'importe quoi. Pas le matin, c'est ridicule. Il y a d'autres choses à célébrer à ce moment-là. Oui. Bon, et puis, après ça, donc oui, c'est un sens ce qu'on fait. On peut revenir, bien sûr, on pourrait développer ça. Ensuite, cet office de Vêpres, donc, qui est un office vespéral, comme son nom l'indique, il a une structure. Ça, c'est comme tous les offices que nous avons. Ce sont des offices traditionnels, si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis à l'arbitraire humain, à la bonne volonté, aux idées, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Oui. Non, nous en héritons comme d'un patrimoine liturgique organisé, non arbitraire, avec une certaine forme dans laquelle l'intelligence de l'Église s'exprime, dans laquelle la conscience de l'Église s'exprime, la pensée, la connaissance aussi s'exprime, et surtout une conscience qui s'enracine là aussi dans le judaïsme. Ça, c'est aussi très important. C'est pour ça que l'office de Vêpres, comme en fait tous nos offices chrétiens, si je ne me trompe pas, il comporte en tout cas deux dimensions. Peut-être pas exactement deux parties, mais pas tout de même. On peut aller jusqu'à dire deux parties. Quelles sont ces deux parties? Je dis ça globalement. Eh bien, la première partie de l'office de Vêpres est consacrée à la psalmodie. Les psaumes. Or, qu'est-ce que sont les psaumes? Tout le monde sait que les psaumes sont un résumé extraordinaire, génial, un résumé archi-inspiré de la Bible. Donc ça veut dire que la première partie de Vêpres, c'est l'histoire biblique, c'est Israël, c'est le peuple juif, c'est la famille d'Abraham, c'est... Tout ce qui a été élaboré, approfondi, connu, expérimenté par le peuple de Dieu jusqu'à l'incarnation elle-même. Je fais exprès, vous voyez, de ne pas employer l'expression Ancien Testament et Nouveau Testament, parce que ça me paraît vraiment inexact. Je fais partie des personnes qui pensent qu'il y a un seul et unique testament et qu'une alliance de la création à la fin du monde. Là, c'est l'alpha et l'oméga dont parle l'Apocalypse. Et cette unique alliance, bien sûr, elle s'articule dans des moments extraordinaires, des chapitres irréversibles d'ailleurs, donc qui donnent à penser qu'il y a comme si plusieurs alliances. Mais en fait, c'est pas exactement ça. Il y a plusieurs moments dans l'alliance. Donc le moment le plus important, c'est le moment, on va dire, biblique, proprement judaïque, proprement, oui, ça, spécifiquement sémite quand même. Spécifiquement sémites, judaïques, juifs, israélites, hébreux, mosaïques, enfin tout ce que, je sais pas quel mot vous voulez employer encore, mais donc c'est ça le judaïsme, nous le trouvons dans les psaumes. Où les psaumes nous donnent accès au judaïsme, à notre judaïsme, ce judaïsme qui est à nous, qui est notre patrimoine, qui est notre héritage, sans lequel nous ne serions pas chrétiens, etc., etc. D'où l'importance, je redirai peut-être tout à l'heure, d'où l'importance de dire les psaumes qui sont indiqués. Dans les éditions que je nommais tout à l'heure, vous trouvez à la fin de chacun de ces volumes des indications sur les psaumes qui sont à lire tel jour, lundi, mardi, mercredi, etc. C'est ce qu'on appelle les catismes. Alors on appelle, je dis ça parce que justement je m'adresse à tout le monde, on appelle catisme un groupe de psaumes qui est lui-même composé de plusieurs sous-parties qu'on appelle des stances. Donc un catisme du psautier, généralement, est prévu pour tel jour à telle heure. Alors il y a des catismes qui sont lus à matine, des catismes qui sont lus à vêpres, des catismes qui sont lus aux petites heures, on y reviendra si vous voulez, mais l'office des vêpres, il a sa collection, il a son découpage, si vous voulez, de catismes propres. Ça veut dire que les psaumes qui sont lus lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir et samedi soir, ces psaumes ne sont pas du tout choisis arbitrairement. Ils ont été choisis par les pères. On pourrait retrouver la date. Ce serait intéressant, d'ailleurs, ça c'est un peu un travail de spécialiste, vous voyez, on ne serait plus en propédeutique, de retrouver la date de la fixation de l'usage des catismes dans l'office de Vêpres. À quelle époque est-ce qu'on a déterminer que ce serait ces psaumes-là et pas d'autres qu'on lirait. Très franchement, je suis incapable de répondre à cette question ce soir, mais la question elle-même m'intéresse. Donc ça, c'est ça la première partie des Vêpres. Le psautier, notre judaïsme, notre Bible, nos racines sémitiques, notre Israël à nous. Voilà. Et puis, après ça, il y a une deuxième partie qui, elle, est beaucoup plus christologique ou christocentrique. Et donc la partie christocentrique, elle est marquée par des prières qui sont des compositions inspirées par le Saint-Esprit à l'Église. Et ces prières sont la première, la plus caractéristique, et qui marque vraiment l'articulation avec la deuxième partie, c'est le fameux hymne « Lumière joyeuse ». Lumière joyeuse du Père. Alors cet hymne « Lumière joyeuse », il n'est pas dit, il est chanté. Et il faut savoir, c'est intéressant de savoir ça, que l'hymne « Lumière joyeuse » se trouve parmi les prières les plus anciennes que nous ayons dans la tradition liturgique de l'Église. Et c'est pour ça qu'on le trouve, d'ailleurs, dans pratiquement, à ma connaissance, tous les offices chrétiens, pas seulement dans l'office byzantin, ou gréco-slave, ou palestinien, qui est celui que nous utilisons actuellement dans l'Église orthodoxe, mais il se trouve dans le rite latin, et il se trouve dans tous les offices. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est ce qu'on appelle le lucernaire. Ça vient du mot lux, en latin, qui veut dire la lumière, c'est-à-dire l'office de la lumière. L'office de la lumière, ça, c'est quelque chose qui est absolument caractéristique des vêpres. Et c'est à ce moment-là qu'on entre dans la deuxième partie des vêpres, où on va trouver des éléments qui sont des compositions patristiques, se rapportant au jour, se rapportant à la fête, se rapportant au temps liturgique, mais se rapportant tous à un mystère ou l'autre, qui est un mystère du Christ. Par exemple, si on prend les vêpres du samedi soir, c'est dans cette deuxième partie qu'on va trouver toutes les compositions patristiques qui se rapportent à la résurrection. Vous voyez ? Mais en tout cas, chaque jour, alors vous savez, vous devez savoir ça, je suis là pour vous le dire aussi, que chaque jour, dans notre organisation liturgique de l'Église orthodoxe actuellement, chaque jour a un motif particulier. Le lundi, ça va avec les vêpres aussi, parce que ça va se retrouver dans les offices de vêpres. Le lundi, nous faisons toujours mémoire des anges, des incorporels et des martyrs. Les martyrs, c'est pas compliqué, pratiquement tous les jours, on fait mémoire de. Donc le lundi, c'est un jour consacré aux anges, archanges et incorporels. Le mardi, toujours consacré à, vous le savoir, Saint Jean-Baptiste, le grand prophète et précurseur du Christ. Le mardi, c'est le jour de Saint Jean-Baptiste. Mais il y a d'autres thèmes qu'on trouvera principalement. Donc ça veut dire que les compositions patristiques qui vont être chantées le lundi soir et au début du jour liturgique qui est le mardi sont des petites hymnes patristiques dans lesquelles il va être fait mention de Saint Jean-Baptiste. En tout cas, simplement parce que c'est un mardi. Et en plus, il y aura peut-être, certainement, des tropaires et des petits textes liturgiques qui se rapporteront à la fête du Saint qui est également ce jour-là. Donc il y aura occurrence entre le fait que c'est un mardi et le fait qu'il y ait une célébration mobile. Ils m'ont dit que c'est la fête de Saint-Benoît, je ne sais pas quoi. Mais du coup, il sera question de ce Saint-là également. Alors ce qu'on appelle tropaire, je vous le rappelle, je crois que j'ai déjà expliqué le mot, on appelle tropaire un petit poème liturgique, une petite hymne très courte, mais qui est une composition poétique et qui en grec, ce qui a été écrit en grec, est écrit suivant des règles métriques très très objectives, mais bien sûr une fois traduit en français, c'est pas traduit en vers, ça perd beaucoup de sa qualité rhétorique, ou stylistique, ou littéraire. Pas tout conservé. Mais dans c'est ça un tropaire. Alors un tropaire, un condacon, c'est pareil, condacon, également une petite hymne qui exprime la foi de l'Église liée à l'heure, liée au temps, liée au jour, liée au fait dans lequel on se trouve. Et ça, c'est très très précis. Nous sommes dans l'Église orthodoxe, dans un monde qui liturgiquement est très organisé, très riche, très intelligent et très pédagogique. Très pédagogique. Donc, je vous disais, lundi les anges, mardi Saint Jean-Baptiste, mercredi il y a la croix et la mère de Dieu. Donc je ne refais pas le même discours, mais on va trouver dans les vêpres du mardi soir, c'est-à-dire du mercredi commençant, on va trouver des allusions à la mère de Dieu et à la croix. Ensuite, qu'est-ce qu'on a jeudi? Mais jeudi, c'est un jour consacré aux saints apôtres et à Saint Nicolas. Je vous le rappelle, c'est extrêmement important. Le jeudi, c'est vraiment le jour des apôtres. Donc, même chose, les textes qui vont être chantés dans les vêpres du mercredi soir, se rapporteront aux apôtres et à la mère de Dieu, et à Saint-Nicolas. Ensuite, vendredi, c'est comme le mercredi, pratiquement, la croix et la mère de Dieu. Ensuite, le samedi sont les martyrs principalement, les ascètes, les pères théophores, comme on dit, et les défunts. Le samedi est le jour des défunts. C'est pour ça qu'on célèbre des offices pour les défunts le samedi, et non pas, s'il vous plaît, le dimanche. Mais bon, je sais, à peu près comme au courant de notre fonctionnement, il y a des offices qui sont pour les défunts qui sont faits le dimanche, simplement parce qu'en paroisse, en province en particulier, les fidèles ne viennent que ce jour-là, c'est tout. Bon. Mais ça n'a pas de sens particulier. Le vrai sens de l'office des défunts, c'est le samedi. Pourquoi ? Parce que c'est le samedi que le Christ est au tombeau, c'est tout. Et qu'on prie pour les défunts en vue de la résurrection, qui va justement avoir lieu le lendemain. Tout ceci a un sens. Et déjà, si nous retenons que la vie liturgique, en l'espèce des vêpres, est loin de tout arbitraire et de tout caprice, hein, on aura déjà appris quelque chose d'utile. Bon, et ça ne veut pas dire que ce soit étouffant. Je dirais, si j'avais le temps, je dirais qu'on tient compte du temps qu'on a. Quelquefois, un office de vêpres, on n'a pas le temps de le dire pendant une heure, donc, parce que les gens sont pressés, on allège un petit peu. Oui, on ne sommes pas prisonniers non plus. Mais n'empêche qu'il y a une structure, il y a une logique, il y a une pédagogie. Donc, retenez ça, c'est deux parties de l'office de vêpres. Je regarde la structure de l'office, qu'est-ce que j'ai écrit. Bon. Alors, j'aurais peut-être dû dire, je le dis maintenant, qu'il y a des livres liturgiques qui servent pour la célébration de vêpres et dont on retrouve le contenu justement dans la structure. Quels sont ces livres liturgiques ? Et je vous ai dit, le premier livre liturgique, le psautier, ça incontestablement. Ensuite, ce qu'on pourrait appeler l'ordinaire des vêpres, qui se trouve dans un livre d'heures. Par exemple, ici, je montre les viraticoles. Ben, le livre d'heures, c'est un livre d'heures, hein. Le livre d'heures donne les parties fixes, immuables, si je peux dire, de l'office de vêpres, sa structure, ce qui se fait toujours, ce qui ne bouge pas. Quoi. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme livre ? On a un autre livre liturgique, on a quand même beaucoup de livres liturgiques. Hein. On a un livre liturgique, après ça, qui peut être, par exemple, ce qu'on appelle le ménologe ou le livre des ménés. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre extraordinaire ? Le ménologe ou le livre des ménés, c'est le livre des mois. Qu'est-ce que c'est que le livre des mois ? Le livre des mois, c'est la collection des saints qui sont, que l'on prie chaque jour de tel mois. Et les ménologes comportent également les fêtes mobiles. Par exemple, une fête qui va être célébrée la semaine prochaine, qui est la fête de l'Annonciation, eh bien, si on veut trouver les textes qui s'y rapportent, c'est dans le ménologe de mars qu'on va le trouver. Donc, les ménés ou les ménologes, c'est une collection de liturgiques. Il y a quand même, les 12 volumes, parce qu'il y a 12 mois dans l'année chez les orthodoxes comme chez les autres, hein, plus des index et des ajouts. Et ça, c'est à peu près indispensable, si vous voulez, parce qu'on va l'utiliser dans l'office de vêpres. Puisque tel jour, ça peut être un mardi Saint-Jean-Baptiste, mais c'est peut-être la fête d'un autre saint. Donc, c'est dans le ménologe de ce jour-là qu'on va trouver les prières qui vont avec. Et ça sera indiqué. Après ça, on pourrait rentrer dans le détail. Donc, le ménologe. Ensuite, autre livre liturgique. Eh bien, suivant la période dans laquelle nous nous trouvons, il y a trois livres liturgiques possibles. Soit un livre qui est très intéressant, d'une grande richesse, magnifique, qu'on appelle l'octoèque, ou paraclétique. Alors, l'octoèque n'est pas un animal, comme vous pourriez penser, ça fait penser à certains animaux. Non, l'octoèque est un livre, c'est le livre des huit tons. Ça, c'est extraordinairement intéressant. C'est un recueil qui fait généralement 2-3 volumes, et dans lequel il est pour tous les jours de l'année, suivant l'ordre des huit tons. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dans les huit tons. Octoèque, c'est ça, c'est le fils des huit tons. Donc ça, c'est indispensable. On l'utilise pratiquement toute l'année, sauf pendant le carême et certaines périodes, on l'utilise pratiquement pas en semaine, on l'utilise que le dimanche. Ça, c'est déjà un peu un détail. Enfin bon, le livre de l'Octoèque, vous rappellerez ça. On l'appelle également paraclitique, le même livre, parce que il comporte des canons, c'est-à-dire des compositions liturgiques. Vous savez qu'un canon, ce n'est pas un verre de vin ou un instrument de bataille. Un canon, c'est une organisation poétique exprimant un thème, chantant un saint, etc. C'est une composition poétique qui est très, très typique, non pas de l'office de vêpres, justement, mais de l'office de matine. Dans l'office de vêpres, il n'y a pas de canon. Justement pas. Donc, je ne vais pas en parler plus. Mais ce que je veux dire, c'est que, parlant du paraclétique, je parle du canon parce qu'il y a dans le, dans le paraclétique, pour chaque jour, dans le paraclétique, pas le paralytique, dans le paraclétique, P-A-R-A-C-L-I-T-I-Q-U-E, il y a pour chaque jour un canon se rapportant à Saint-Jean-Baptiste pour le mardi, à la croix le mercredi, etc. Et ces offices sont des offices de supplication. Or, paraclésis en grec, ça veut dire supplication. Ok ? Comment ?
Ça, c'est les
matines, paraclétique. Oui,
paraclétique.
Pour les matines.
Oui, il y a dedans ce qu'il faut pour les matines et il y a dedans ce qu'il faut pour les vêpres également. Oui. C'est pour ça que je dis que pour l'office des vêpres, on a besoin de ce bouquin. Ensuite, de quoi avons-nous besoin éventuellement? Mais si on est en carême comme maintenant, on a ce livre que vous connaissez qui s'appelle le livre du Triode.
Ah oui.
Alors, on appelle le Triode. Là, mon cours, c'est pas un cours sur le livre liturgique, ce serait trop long, mais enfin bon, globalement, parce qu'il comporte des canons très très courts qui sont lus aux matines. De ce temps du carême. Mais il y a également tout ce qu'il faut pour l'office de vêpres, en particulier les lectures bibliques, et puis les compositions patristiques se rapportant donc toujours à cette deuxième partie de l'office de vêpres. Donc vous voyez que la première partie de l'office de vêpres, elle est très chargée, parce que les psaumes y ont une place importante. Quelquefois, il y a plusieurs catéchismes, quelquefois, dans certains offices. Bon. Et la deuxième partie de vêpres est très 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 chargée par tout cet apport théologique, hein, de la tradition chrétienne, ecclésiale, disons. Bon, donc le Triode. Et puis, il reste un livre, que je ne dois pas oublier, qu'on appelle le livre du Pentecostaire. Alors, comme son nom l'indique, il est le livre qui est lu pendant les 50 jours qui se trouvent entre Pâques et la Pentecôte. Enfin, ça va plus loin que ça, d'ailleurs, ça va jusqu'à la, si je ne me trompe pas, ça va jusqu'à la fête de tous les saints, c'est-à-dire le dimanche qui suit la Pentecôte, et peut-être même encore un dimanche après, le dimanche de tous les saints de la terre russe, de la terre roumaine, enfin de chaque pays. Ah bon, globalement, le Pentecostaire est un livre. Alors c'est un livre magnifique, je ne peux pas vous dire, enfin vous trouverez ça vous-même, et dans lequel on puise pour le fils des vêpres, puisque ça nous regarde, et pour le fils des matines, on en reparlera. Voilà. Donc vous voyez, donc il y a quand même déjà un certain matériel à avoir. Si on ne l'a pas, ben, on simplifie. Il y a toujours la possibilité de faire light. L'intérêt de la chose, si je peux dire, c'est quand même de célébrer les offices tels qu'ils sont prévus dans toute leur richesse et toute leur pédagogie, évidemment, si on peut. J'avance parce que le temps passe. Voilà. Donc, ça c'était à propos des livres liturgiques et la structure de l'office. Donc, ces deux parties. Alors, je n'ai pas été très complet en parlant du psautier. Je dois vous dire que dans la première partie des vêpres, on trouve, se rapportant à l'Ancien Testament, entre guillemets, pardon, on trouve également, comme je l'ai dit tout à l'heure, des lectures prophétiques, livre de la loi, livre des prophètes, livre des proverbes, surtout pendant le carême. Ces lectures, on les trouve pratiquement chaque jour, je crois pas me tromper. Alors pendant le reste de l'année, il faut dire que malheureusement, pour des raisons que je ne connais pas, les lectures prophétiques sont tombées en désuétude, sauf quand c'est une grande fête. Mais la place de ces lectures vétérotestamentaires, elle est dans la première partie des vêpres aussi. Hein. Donc c'est très intéressant. C'est l'office des vêpres, si vous voulez, il donne une figuration du temps, de l'histoire avec un grand H. Vraiment, de la création du monde à l'accomplissement du monde par le Christ. À la création du monde par le Christ, avec le Père et l'Esprit, et à l'accomplissement du monde par le Christ et dans le Christ. Puisqu'il est celui qui accomplit tout, qui conduit tout à la perfection. Ensuite, autre tâche, j'essaie d'avancer. Moi, j'ai noté aussi quelques remarques basiques. Je pense que ce que je dis là, c'est vraiment basique pour commencer. Au fond, on est la problématique, ça, c'est commencer. Commençons, intéressons-nous à la vie de vêpres. Comment ça fonctionne? Eh bien, ce qui est très important, ce sont les rites. Mais là, c'est très long. Pour parler des rites de la vie de vêpres, il faut, je pense, plusieurs heures, c'est très complexe. Donc je simplifie. Qu'est-ce qui est peut-être le rite numéro 1, disons? Je ne suis pas absolument sûr de ce que j'ai dit. Je continue parce que j'ai commencé. Le rite le plus important, c'est le rite de la lumière, c'est incontestablement. Et il y a donc, à la charnière de la première et de la deuxième partie des vêpres, il y a un rite de lumière, il y a un allumage des lumières qui sont sur l'autel, surtout parce qu'il y a plusieurs formes de vêpres, les petites vêpres et les grandes vêpres, surtout dans la vie des grandes vêpres, il y a cet allumage solennel qui marque vraiment l'entrée dans la deuxième partie de l'histoire du monde, en fait. C'est l'histoire du monde qui se déroule sous nos yeux. Donc le rite de la lumière est extraordinairement important et nécessaire. Cette lumière, elle est chantée. Bon, donc, en fait, on peut dire que le fils de Vêpres, c'est le fils de la lumière. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le mot lucernaire veut dire ça. Il veut dire office de la lumière. Bon, donc ça, c'est la première, peut-être le plus important. Autre rite extrêmement important dans l'office de Vêpres, c'est le rite de l'encens. L'office de Vêpres se caractérise par l'offrande de l'encens. Donc c'est très important. Vous savez très bien que le symbole de l'encens est un symbole presque inépuisable de signification. Enfin, que globalement, ça consiste à parfumer une personne, c'est-à-dire à honorer la présence invisible du Christ lumière. Ah, c'est quand même le sens premier de l'encens. Ensuite, l'encens, vous savez très bien, signifie la prière qui s'élève. Le psaume dit ça, que ma prière s'élève devant toi comme l'encens. Hein, c'est un psaume qu'on chante justement pendant les vêpres du carême. Donc l'encens signifie ceci. Mais il signifie également, parce que l'encens forme une espèce de nuée, de nuage, et il signifie cette nuée qui est un des symboles, c'est pas une icône, hein, une sorte de symbole de la présence du Saint-Esprit, et cette nuée qui guide le peuple de Dieu dans le désert. Mais ça, c'est assez rare qu'on arrive à avoir un vrai nuage d'encens dans l'église. Quelquefois, quand un diacre ou un prêtre sait bien manier l'encensoir, il arrive à créer cette nuée. Bon, pas. Mais donc c'est l'offrande de l'encens. Et en tout cas, ce qui est le sens de l'offrande de l'encens, c'est l'offrande elle-même. Hein, c'est-à-dire que la communauté des baptisés, par l'offrande de la lumière et l'offrande de l'encens, elle se comporte comme une communauté sacerdotale. Ça, c'est très, très, très important. C'est peut-être plus important que la lumière elle-même ou que l'encens lui-même. C'est la manifestation de l'Église. Ça, je tiens beaucoup à ça. Vous ne le trouverez pas dans les livres, d'ailleurs. Malheureusement, on oublie de le dire. L'intérêt de tous les offices, d'ailleurs, mais particulièrement de cet office de Vêpres, qui est l'office commençant, disons, sur la liste de nos offices, ben c'est par l'office de Vêpres qu'on commence, c'est la réalisation de l'Église comme communauté sacerdotale et la manifestation du peuple comme peuple sacerdotal. Ça, c'est vraiment l'événement, oui, l'événement ecclésial, le peuple de Dieu se réunit et célèbre. Alors, un peuple de célébrants apparaît à cette heure-là. Et ça, c'est très, très, très important. C'est d'où l'importance de célébrer. Il ne suffit pas de dire, il y a des vêpres à l'église, je vais pas, j'ai pas le temps. Non, il faut venir et participer et célébrer, si on peut. Oui, donc, alors ça c'est, en plus, dans le rite, le troisième élément important, ce sont les mouvements, les déplacements. Alors ici, là, il y a une différence entre le fils des petites vêpres et le fils des grandes vêpres. Alors, le fils des petites vêpres, les déplacements sont très mesurés, on n'ouvre pas les portes centrales, le prêtre sort à la fin pour bénir, mais après ça il rentre, il y a des choses que... Il n'y a pas ce mouvement essentiel, fondamental du point de vue théologique, qui est le rite de l'entrée. Et ça, on a déjà parlé de ça dans d'autres cours, je crois. Le rite de l'entrée, c'est surtout le père Alexandre Schmemann qui a expliqué ça, c'est un rite absolument fondamental. C'est le rite, peut-être un des rites chrétiens les plus caractéristiques. Qu'est-ce que c'est que cette entrée? C'est l'entrée du Christ dans Jérusalem. C'est l'entrée, c'est le retour du Christ auprès du Père. C'est l'entrée du Christ dans son propre temple. C'est le triomphateur de la mort qui entre en vainqueur dans sa cité. Enfin, et c'est pour ça que nos églises, et autrefois les églises aussi bien occidentales qu'orientales avaient le même schéma, comportent toutes un porche d'entrée, un arc de triomphe qu'on appelle l'iconostase maintenant. Il n'a pas toujours porté des icônes, et à l'époque il n'y avait pas d'icônes sur cette partie-là, mais il y a toujours eu cette arche de triomphe. Et cette arche de triomphe est le lieu où s'opère l'entrée. Mais qu'est-ce qui entre? C'est pas le prêtre, c'est pas le diacre, c'est le Christ. Le Christ, en l'espèce de l'évangile, quand si c'est le cas, il y a des offices de vêpres quelquefois très solennelles où il y a une entrée avec l'évangile, ou en tout cas le prêtre lui-même est revêtu du Christ par tous les vêtements sacerdotaux à ce moment-là, et c'est le Christ qui entre comme lumière justement. Donc la grande, ce qu'on appelle la grande entrée qui va dans l'office des grandes vêpres, alors on ouvre tout solennellement, on allume tout, et il y a une entrée solennelle avec la lumière. Donc c'est ça, c'est une différence essentielle. Ce rite-là, ce mouvement-là, si vous voulez, n'est pas dans tous les offices de vêpres. Il y a une différence importante entre l'office de petite vêpre et l'office de grande vêpre. L'office de grande vêpre est célébré en début de grande fête, par exemple le samedi soir, parce que c'est le début du dimanche, ou la veille de l'Annonciation ou l'Ascension, je ne sais pas quelle fête vous voulez trouver, et ce sera l'office des grandes vêpres. Et donc avec cette entrée très solennelle. Donc voilà pour les rites. Il y en a bien d'autres, évidemment. Il y en a bien d'autres, mais qui sont pas aussi fondamentaux et caractéristiques que ça. Je rappelle donc, rite de la lumière, rite de l'encens, rite de l'entrée, en tout cas dans les grandes vêpres. D'accord ? Ensuite, un point important, mais ça je vous l'ai déjà dit, je voulais souligner, mais je le redis un peu, c'est que le fait que le fils de vêpres exprime d'une manière très, très importante le lien avec le judaïsme. Je reviens un petit peu, j'ai dit que ça tenait à la place du psautier, donc ça tient à la place des lectures prophétiques ou sapientielles, ça tient à l'heure, à la sanctification de l'heure, à la conception même cosmologique qui considère le jour commençant avec la nuit tombée, bon. Et ça tient aussi à ce rite de la lumière. Le rite de la lumière et le rite de l'encens sont des rites qu'on trouve dans les prières juives. Et donc on est, et ça c'est important de dire ça, c'est pour ça que célébrer l'office de vêpres est important, parce que ça nous réenracine, ou ça confirme nos racines juives, nos racines bibliques, nos racines. Oui, nous ne pouvons pas être chrétiens sans cette connexion perpétuelle avec l'héritage biblique. C'est pas possible. C'est pour ça que je dis ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelquefois dans les paroisses, pour qui les choses sont un peu difficiles, une façon d'omettre les psaumes, et qui est vraiment dommageable. Alors, ils peuvent pas. Bon, d'accord. Mais normalement, les psaumes qui sont prévus pour tel jour doivent être lus. Par exemple, le samedi soir, il y a un catéchisme. C'est le premier catéchisme. Et bien, normalement, on doit entendre complètement ce catéchisme. Or, dans la pratique, vous allez dans beaucoup de nos paroisses, les fidèles qui sont de bonne foi et les prêtres qui sont de très bonne foi également, et bien, ils se contentent de lire le premier psaume. Et hop, ils passent à autre chose après. Un psaume fixe, qui est le psaume du discerneur, « Seigneur, je crie vers toi, écoute-moi », etc. Très bien. Mais omettre le psautier, ne pas lire les psaumes, ça c'est vraiment dommageable, parce qu'on perd l'enracinement juif, judaïque. Et donc on s'appauvrit beaucoup. Moi je fais partie des personnes qui, militent pour la restauration du psautier à sa juste place dans les offices, y compris les offices paroissiaux. Bon, j'avance. Qu'est-ce qui est intéressant dans le l'office de vêpres encore ? J'ai encore quand même un peu de temps. Ce sont les compositions qu'on pourrait appeler les prières et les hymnes, qui sont réparties dans l'ensemble de l'office. Je vous ai déjà parlé des hymnes. Je vais un peu vite, je vous demande pardon. Je vous ai parlé de l'hymne Lumière Joyeuse, évidemment, qui est central parce qu'il est lié à l'offrande de la lumière. Mais il y a une autre hymne qui est très très importante et qui est caractéristique de l'office des vêpres, et qui est une hymne qui n'a pas été composée par les pères, comme c'est le cas pour Lumière Joyeuse, est une hymne qui se trouve dans l'Évangile. Et c'est l'hymne, le cantique du vieillard Siméon. Et maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, parce que mes yeux ont vu le salut qui vient de toi, etc. Or, ce cantique-là, il est très très important. D'une part, parce qu'il introduit le thème de la mort à ce moment-là. C'est-à-dire, toute personne spirituelle un peu mûre pense à la mort quand la nuit vient. À la tombée de la nuit, il y a quelque chose dans notre inconscient qui nous suggère la mort. Et quand nous nous endormons le soir, nous faisons le signe de la croix et nous pensons aussi à notre propre mort. Il y a même des gens très courageux qui se couchent dans un cercueil, etc., pour pas oublier qu'ils sont mortels. Mais donc, cette relation entre la mort et donc avec la vie, puisqu'on parle de résurrection tout de même, hein, elle est inscrite aussi dans cet hymne du vieillard Siméon qui dit « Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, parce que mes yeux ont vu le salut qui vient de toi. » Donc c'est un peu de ce congé que l'être humain prend quand Dieu lui a révélé tout ce dont il avait besoin d'être éclairé. Maintenant que je connais le Christ, je peux mourir en paix. Je n'ai plus, je peux rien attendre de mieux de la vie que de connaître le Christ. C'est très, ma journée est comblée, ma vie est comblée parce que je connais le Christ. Et maintenant, oh Dieu, voilà, reprends ma vie. J'ai reçu de cette vie tout ce que je pouvais en recevoir puisque je connais la lumière incréée du Fils unique et Verbe de Dieu. Je peux dire une expérience personnelle. Il m'est arrivé il y a très très longtemps d'entrer dans une église orthodoxe à Paris, je pourrais la nommer, bon, peu importe, à l'heure des vêpres, justement à l'heure des vêpres, et d'avoir été tellement émerveillé, je veux dire, par la beauté de cet office, et justement cet équilibre entre lumière et ténèbres, entre cet équilibre extraordinaire qu'il y avait dans l'office, que je ne comprenais pas bien, parce que c'était dans Slavon, donc une bonne partie quand même m'échappait. Bon, les textes m'échappaient, parce que je ne les comprenais pas, mais ce qui ne m'échappait pas, c'était l'organisation symbolique, profonde, d'intelligence profonde des choses. Je ne sais pas comment exprimer ça. Mais ce que je peux exprimer, en tout cas, c'est que je me suis dit à ce moment-là, là, maintenant, je peux mourir. Pas un problème. Ce que j'ai perçu là, ce que j'ai vu là, je n'ai plus peur de la mort. C'est vraiment une expérience très très importante. Je n'ai plus peur de la mort, je ne tiens plus à la vie particulièrement. J'ai reçu de la vie ce que je pouvais en recevoir, c'est-à-dire cette beauté immatérielle. Et donc c'est ça qui est exprimé par le cantique de Siméon, et c'est quelque chose d'extrêmement profond. C'est-à-dire c'est l'annonce d'une maturité exceptionnelle chez l'être humain. Siméon, c'est un vieillard, on lui dit, bon, et donc il est bien sûr le représentant des hommes mûrs, hein. Mais cette maturité, c'est une maturité spirituelle qui naît de l'émerveillement que nous avons pour le Christ. Mais dans cet hymne, alors je reviens aussi à un sujet que j'ai abordé il y a quelques instants, dans cet hymne, ce cantique de Siméon, ce qui est extrêmement important également, c'est qu'il donne la clé de la relation entre le judaïsme et la foi en Jésus-Christ. Il dit les deux choses importantes, c'est-à-dire que le Christ est lumière pour les nations, c'est-à-dire les non-juifs, et qu'il est lumière, mais gloire, très exactement, pour le peuple d'Israël. Donc ça, ça veut dire que c'est dans l'office des vêpres qui dit l'essentiel de ce que le Christ apporte au peuple d'Israël, c'est-à-dire d'être à la fois son Messie, sa gloire, et d'être celui qui ouvre Israël vers les non-juifs, vers les gentils. Donc c'est un moment exceptionnel et extrêmement important. Donc s'il fallait, par exemple, alléger l'office des vêpres, enlever ce que vous voulez, mais n'enlever ni lumière joyeuse, ni le cantique de Siméon. Autrement, il ne reste rien des vêpres. Ça, c'est ça. D'accord ? Alors, il n'y a rien à dire aussi, mais ça, je crois que je n'aurai pas le temps. Il y a des prières qui sont dites par le prêtre, à voix basse, à tort ou à raison, ça peut se discuter. Et ces prières presbytérales, elles sont dites au tout début de l'office, pendant qu'on lit un psaume qui est immuable dans l'office des vêpres, qui est le psaume qu'on appelle le psaume cosmique, le psaume 104 ou 103, qui montre toute la beauté de la création. Et pendant que ce psaume est lu, le prêtre lit en silence des prières qui sont extrêmement belles, mais que vous pouvez lire et que je vous engage à lire quand vous procurez un livre d'heures comme celui que j'ai sous les yeux. J'en lis une quand même, mais je l'ai trouvé admirable. Vous voulez que je vous en lise une, la prière 3 de l'Office des Vêpres? Je vous la lis parce que vous ne l'entendez probablement jamais, elle n'est pas dite à haute voix. Seigneur notre Dieu, dit le prêtre, souviens-toi de nous pécheurs, tes inutiles serviteurs qui invoquons ton saint nom, et ne nous déçois pas, nous qui attendons ta miséricorde. Mais accorde-nous, Seigneur, tout ce que nous demandons pour notre salut. Écoutez la suite. Donne-nous de t'aimer et de te craindre de tout notre cœur et de faire en toute chose ta volonté. C'est des très belles prières. Donc c'est ça qui est dit en deuxième plan, en arrière-plan du psautier. Alors quelquefois dans certaines paroisses, on a essayé de trouver le moment de dire ces prières à haute voix. Ce n'est pas extrêmement commode, mais il faut en faire l'expérience. En tout cas, dans l'office des présanctifiés, dont je ne peux pas vraiment parler maintenant, mais qui est un office de vêpres, justement, une bonne partie de ces prières est dite à haute voix. Voilà. Qu'est-ce qui est... qu'est-ce que je voulais dire encore? Alors oui, c'est quelque chose une indication que je voudrais donner également maintenant, c'est ce qui concerne les vêpres non presbytérales. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce que en m'adressant à des auditeurs de propédeutique, je m'adresse à des personnes qui appartiennent à des paroisses par-ci et par-là en France, et dans ces paroisses, quelquefois il n'y a pas de prêtre, quelquefois il n'y a pas de prêtre pour le moment, ou le prêtre n'est pas arrivé, etc. Donc il y a des situations paroissiales qui existent, enfin, c'est le cas dans notre doyenné de France actuellement, où les fidèles sont finalement appelés à célébrer l'office des vêpres en l'absence de prêtre. Alors ça, c'est quelque chose de très 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 important. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que le plus important de l'office des vêpres, c'est que se constitue, se rassemble, s'éveille le peuple sacerdotal de Dieu. Mais le peuple sacerdotal de Dieu, il est fait de tous les baptisés. Et donc si le prêtre est absent, ce peuple des baptisés existe quand même. Et ce peuple des baptisés, il a la compétence liturgique. Ça, c'est important. Tout baptisé est compétent pour la liturgie. Tout baptisé est compétent. D'accord ? Il est compétent pourquoi ? Parce que tout baptisé a reçu par le baptême et la chrismation une sorte d'ordination sacerdotale qui le constitue membre du peuple sacerdotal de Dieu et du Christ. Or, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien sûr, les fidèles qui se trouvent sans prêtre, ils ne savent pas ce qu'il faut faire, machin, etc. Ils n'ont pas tous la possibilité d'écouter le cours de propédeutique sur le fils de verbe. Donc ils n'auront peut-être pas tous les éléments. Mais qu'ils sachent, si ça leur arrive, que le fils de verbe sera le même à beaucoup d'égards que s'il y avait un prêtre. Qu'est-ce qu'il y aura en moins ? Eh bien, il n'y aura pas de litanie. Il n'y aura pas les grandes litanies qui est au début, il n'y aura pas les petites litanies, il n'y aura pas une prière que le prêtre dit à haute voix, une prière qu'il dit pour le peuple, et il n'y aura pas l'ouverture et la fermeture des portes, parce qu'il n'y aura pas le grand, même s'il y a un office de grande vêpre, mais il n'y aura pas la grande entrée, parce que la signification justement sacerdotale de la grande entrée donc sera mise entre parenthèses par l'absence du prêtre. Ça ne veut pas dire que le prêtre monopolise le sacerdoce, ça veut dire que le prêtre, par son ministère presbytéral, son ministère de présidence, le prêtre exprime le ministère sacerdotal de l'Église en tant que, dans la mesure où il guide le peuple de prêtres que celui des baptisés. Et ça c'est important, il signifie comme une icône, si vous voulez, la présence sacerdotale du Christ, grand pontife et pasteur d'un troupeau sacerdotal. Donc, en l'absence de prêtre, il n'y a pas tout ça. Il reste tout le reste, il reste tous les psaumes, il reste Lumière joyeuse, il reste le Cantique de Simeon, il reste les strophes patristiques. Vous avez encore un office, si vous le faites en entier, sérieusement, un office de 10 demi-heures, 3 quarts d'heure. Et donc, c'est très... Alors, le début sera différent. Au lieu d'avoir la prière « Bénis notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours », qui est dite par le prêtre, on va avoir « Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, et pitié de nous », pour commencer. Après ça, c'est les prières initiales « Saint Dieu, Saint Fort », comme d'habitude. Et à la fin, au lieu d'avoir « Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère très pure et de tous les saints, etc., nous bénisse, nous fasse miséricorde », qui est une conclusion presbytérale, on aura une conclusion non presbytérale, qui sera « Par les prières de nos saints pères, à nouveau, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. » Mais on aura un office qui va se tenir et qui va tenir la route très très bien. Je peux revenir dessus si on le souhaite. Moi, je suis pour qu'on développe dans les paroisses des offices non presbytéraux. Parce que, d'abord, ça responsabilise le chrétien de base, le chrétien lambda. Ça lui rappelle qu'il est chrétien et compétent. Et ça l'oblige les gens à travailler, parce que alors du coup, ils disent, voilà, oh, qu'est-ce qu'on va faire, on n'a pas de prêtre samedi. Alors il y a ceux qui disent, tant pis, il n'y a qu'à rester chez soi, ça c'est pas forcément le plus intelligent. Et ceux qui disent, si, on va à l'église, j'ai les clés, on va dire les vêpres. Ah, très bien. Alors, comment est-ce qu'on s'organise? Je sais pas, il faut trouver un bouquin, un tel connaît, on va téléphoner à Bidule, qui a l'habitude, qui est plus ancien que nous, on se débrouille, on arrive à les faire, ces vêpres quand même. Au début, c'est catastrophique, la deuxième fois, c'est mieux, et puis c'est de mieux en mieux. Et surtout, il y a un cas, je tiens beaucoup à ça, hein. C'est d'un point de vue pastoral, si vous voulez, c'est vraiment très très important, Il y a un cas où le vice non presbytéral va se pas s'imposer, mais se proposer d'une manière tout à fait agréable, c'est en famille. Mais oui, en famille, en vacances, avec des amis, on va célébrer le fils des vêpres. Et je peux vous dire que je me rappelle, bon, c'est vrai que ça fait des années que j'ai la grâce de vivre dans l'église orthodoxe. Et je me rappelle l'office de vêpres célébré le soir, à l'heure convenable, dehors, dans la nature, sur une plage, le soleil se couchant, et à mesure que le soleil se couchait à l'horizon, on arrivait au moment où on allait chanter Lumière joyeuse. Ce sont des expériences magnifiques. Et je me rappelle ce souvenir-là, il est très important pour moi, parce que nous n'avions aucun livre liturgique. On devait avoir un psautier dans une poche, on a quand même toujours un psautier avec soi tout de même, mais on n'avait rien d'autre, on n'avait pas la structure. Donc on s'est débrouillé, on a fait quand même un office qui ressemblait à des vêpres, on connaissait les prières initiales, les psaumes on les avait, on savait par cœur Lumière joyeuse, on savait par cœur le cantique de Siméon. Il y a quand même pas mal d'éléments de vêpres que nous connaissions par cœur. Je n'étais pas prêtre à cette époque-là, je ne connaissais rien de plus qu'un autre. On était un groupe d'amis, et on a dit, tiens, qu'est-ce que tu penses? T'as vu l'heure? Bon, allez, on dit les vêpres. Oui. Ou à la maison. À la maison, ça se fait beaucoup aussi, dans le petit coin devant les icônes. Sans prêtre, vous voyez? Sans prêtre. Et ça, il faut encore aller. Ça aussi, c'est juif. Il faut savoir que nos amis et nos frères juifs, ils ont pris l'habitude très forte de la prière domestique ou familiale à cause de premièrement de la destruction du temple. Ça, c'est simple. Les gens étaient renvoyés chez eux. Bon. Les synagogues, souvent, n'existaient pas. Les gens ont pris l'habitude de prier les uns chez les autres. Et puis, il y a eu des phénomènes d'émigration, de transplantation, de persécution terrible que nos frères juifs ont subi, qui les ont amenés à valoriser extraordinairement la prière domestique. Et donc, chaque fois que nous faisons l'expérience de la prière domestique, par exemple avec le vice des vêpres, nous rejoignons quelque chose qui est assez fondamental, qui est le sens de la famille. La famille juive ou la famille chrétienne, c'est une famille sainte, c'est une famille bénie et c'est une famille sacerdotale dans laquelle le chef de maison, le chef de famille, l'homme, s'il existe, s'il en a, parce que les cas où les hommes sont absents, malheureusement, ah bon, une famille classique, le chef de famille joue son rôle sacerdotal de chef spirituel. C'est lui qui va guider le fils de vêpres, c'est lui qui va montrer aux enfants quoi allumer, qui va distribuer les prières. On va avoir une manifestation de la petite église dont parle Saint Jean Chrysostome à propos de la famille. Donc ce moment de vêpres familiale, vêpres domestique, c'est un moment extrêmement important du point de vue de la vie de l'église, et je dirais aussi du point de vue missionnaire, parce que peut-être que ce soir-là viendront des amis, qui ne sont pas orthodoxes, qui ne sont pas chrétiens, mais qui assisteront à ça. Ben écoutez, ça ne vous ennuie pas, c'est l'heure pour nous, on dit le fils de vêpres, restez avec nous, si vous voulez, on mangera après. Ben, très bien. Il y a des choses très très simples, et on mange après, effectivement. Il faut que ça débouche aussi sur un partage, sur les discussions. Mais oui, des choses simples. Le fils des vêpres, c'est pas seulement la cathédrale, machin, avec des prêtres avec des super beaux vêtements et des barbes qui traînent par terre. Mais non, c'est le fils des vêpres, c'est quelque chose qui est à tout le monde. C'est à nous, c'est à vous. C'est vous disposez de cela, vous voyez. C'est votre patrimoine. Donc ça, c'est très important. Les livres nécessaires, j'en ai parlé. Et puis, bon, j'ai encore un petit peu de temps. Ce dont je voulais parler après, ah oui, c'est comment préparer l'église ou la pièce pour célébrer vêpres. Ça aussi, c'est important d'un point de vue pratique. Comment est-ce qu'on s'organise? Eh bien, là aussi, ce n'est pas complètement n'importe quoi. Et il faut savoir que la prière chrétienne, depuis les origines, si vous voulez, a été une prière, comme on dit, orientée. Et qui dit orientée, ça veut dire tournée vers l'Orient. Pourquoi tourner vers l'Orient? C'est parce que l'Orient, c'est-à-dire le soleil levant, est le symbole par excellence d'une part de la résurrection et d'une part des deux avènements. Le premier avènement et le second. Le premier avènement qui a eu lieu par l'incarnation, ça a bien été une venue du soleil venu d'Orient, et le Christ même couché dans la crèche à Bethléem. Et la deuxième apparition de cet Orient de toute chose, c'est à la fin des temps, quand le Christ revient en gloire, juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Donc cette perception du Christ comme soleil de justice est un petit peu l'âme de ce qu'on appelle l'orientation. On sait que les premiers chrétiens priaient tournés vers l'Est. Et on sait que c'est très beau. J'ai lu ça dans une histoire des Pères du désert, je ne sais plus où. Je ne sais plus quel saint, un saint Patapios ou Paphnus ou Paco, quelconque, si vous voulez, bon, quelqu'un de très bien. Eh bien, il priait les mains levées. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait ? Au soir, quand venait le soir, il se tournait vers l'Orient et le soleil se couchait dans son dos. Il gardait les mains levées, et gardait les mains levées toute la nuit, figurez-vous. Et le matin, quand le soleil se levait, le soleil éclairait, c'est ce qui est une chose absolument magnifique, le visage de cet homme qui s'était donc couché avec le soleil dans son dos, les mains levées, et le visage de cet homme était éclairé par le même soleil qui se levait devant lui. Et ça, si vous voulez, c'est, quand on pense à ça, c'est sensationnel. Et qu'est-ce qu'il disait comme prière ? Ben, les mains levées comme ça, il ne pouvait pas avoir beaucoup de livres liturgiques, il ne pouvait pas les mettre de l'encens, il ne faisait rien d'autre, il devait avoir une prière, peut-être qu'il récitait le psautier, c'est bien, bien probable. Les anciens, comme saint Antoine, connaissaient le psautier par cœur, souvent, si je peux dire, ils se contentaient de réciter par cœur le psautier. Bon, il y a 150 psaumes. Bon, il le disait une fois, il y en a même qui étaient capables de réciter deux fois le psautier dans la nuit. Ah bon, chacun ses capacités, et toujours est-il qu'il priait dans ce sens-là. Donc, la première chose, le mot chose n'est pas approprié, mais la première, exigence, si vous voulez, premier appel, première beauté aussi, consiste à essayer, si l'on peut, à s'orienter dans la prière. Si on est dans la nature, par exemple, c'est assez facile. Vous êtes dans un bois, dans une forêt avec vos amis, vous dites à l'œil des verbes, cherchez où est le soleil, vous voyez très bien où il est, et à l'œil des verbes, vous voyez très bien qu'il va se coucher dans votre dos. Ça n'est peut-être pas un problème, ça. Et donc, l'ombre de votre corps, l'ombre de votre prière va se projeter sur les bois, ce qui est d'une poésie extrême. Hein. C'est très beau, ça, si vous voulez. L'ombre d'un être humain projeté sur la création, l'ombre d'un être humain en prière projeté sur la création, c'est quelque chose, quand même. Quelque chose. Donc ça, c'est vraiment numéro un, ça. Ensuite, alors peut-être qu'on est dehors, peut-être qu'on est... Vous savez très bien que les chrétiens ne veulent pas prier sans les icônes. Mais on n'en a pas. C'est pas, débrouillez-vous, vous avez dans votre poche, vous avez une carte postale, n'importe quoi, quelquefois des trucs minables, un timbre-poste avec une icône dessus, je sais pas, bon, non, j'exagère un peu, je caricature. La plupart des chrétiens orthodoxes, tout de même, ont bien... au moins une image, quelque chose qui mérite le nom d'icône, bon, dans leur poche, dans leur porte-monnaie, comme marque-page, sur leur téléphone. Moi, écoutez, j'ai un appareil de téléphone, j'ai enregistré comme fond d'écran une icône du Christ. Oui, c'est quand même, c'est quand même normal. C'est pas à moi de vous dire que vous devez avoir des icônes avec vous tout le temps. Je suis désolé, hein. Même en propédeutique ou avant même, ça c'est quand on entre dans l'église, c'est dans la catéchèse qu'on apprend ça. Quelle icône? Ne vous compliquez pas la vie. En tout cas, l'icône de la Mère de Dieu. Pourquoi? Parce que, soyons malins, sur l'icône de la Mère de Dieu, il y a aussi le Christ. Donc, quand on a une icône, on a deux. C'est gagné. Alors, au moins l'icône de la Mère de Dieu, et si possible l'icône du Christ. Deux icônes, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va les mettre? On les met de part et d'autre, ça va être très bien, et on laisse un petit passage au milieu. On va signifier quelque chose qui ressemble à une entrée. Vous voyez, on va organiser, et tout de suite, l'espace se structure. Ce qui veut dire que l'office des verbes, comme tous les offices chrétiens d'ailleurs, constitue non seulement une sanctification du temps, mais il constitue une sanctification de l'espace, une consécration de l'espace. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est un baptisé lambda, vous, moi. On est en train de sacraliser l'espace parce qu'on l'organise en fonction de la foi, la Mère de Dieu et le Christ. C'est extraordinaire. Et donc ça, c'est... Alors ça, c'est, on a besoin de ça, il faut absolument, à mon avis, une icône, l'icône de la Mère de Dieu, et deux icônes si possible. Alors, comme vous avez plus d'icônes que ça, ça devient absolument du luxe. C'est très très bien, évidemment. Mais je parle du cas où vous seriez chez vous, chez un autre, dans votre voiture, dehors, dans une cabane, un lieu de un hôtel où vous êtes venu passer la nuit, une maison de vacances que vous avez louée, je ne sais pas, un endroit qui n'est pas une église, qui n'est pas un endroit classique, qui n'est pas la cathédrale des saints archanges à Paris. Et bon, non, un lieu, je veux dire, un lieu de fortune, si je peux dire. Comment faire? Ben voilà, cherchons, on cherche l'Est et on essaie de mettre deux icônes quelque part. C'est pas un problème, vous voyez. Et après ça, ben, il y a quand même toujours quelqu'un qui a un briquet, qui a une boîte d'allumettes, soit un bout de cierge, un truc qu'on puisse allumer, une ficelle, je ne sais pas quoi, oui, bon. Quand même pour pouvoir allumer et si possible avoir du parfum à offrir. Oui. Ce serait quand même pas mal, si vous voulez, que le chrétien lambda, auquel je m'intéresse beaucoup, parce que c'est lui quand même l'avenir, c'est sur lui qui repose. C'est quand même sur le chrétien de base qui repose nos communautés. Les prêtres peuvent être absents, ils peuvent être morts, etc. Qu'est-ce qui reste dans une paroisse? Il reste le petit gars qui est toujours là, qui est fidèle, qui a comme la clé de l'église, et puis qui sait faire deux, trois trucs, il sait allumer un peu d'encens, il sait allumer un cierge, il sait à peu près ce qu'il faut faire. Mais on doit savoir ces choses-là. On devrait apprendre dans les paroisses, en catéchèse, ce que je suis en train de dire là, c'est-à-dire ne jamais abdiquer la prière de l'église. Parce que quand vous célébrez l'office de vêpres, c'est pas vous qui célébrez, c'est l'église qui célèbre par vous. Vous êtes les ministres de la prière de l'Église. En tant que baptisé, un baptisé a un ministère, excusez-moi, j'ai lourdement, il y a un ministère du baptisé, un ministère baptismal qui s'exerce de cette façon-là. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important, très fort. Et alors après ça, effectivement, les livres liturgiques dont je vous ai parlé, vous les avez, vous ne les avez pas, vous en avez quelques-uns. Alors justement, on se pose la question, peut-être que j'ai encore un petit peu de temps, justement de la des cas, si vous voulez, où on est dans l'obligation de célébrer ce qu'on peut célébrer des vêpres, soit parce que on manque de temps, ça peut arriver quand même, soit parce que on manque de moyens, on n'a pas les livres, ça arrive, ça, si vous voulez, qu'on n'ait pas, qu'on n'ait pas de psautier, ça je ne veux pas le croire, hein, parce que même moi dans mon sac, par exemple, j'ai un petit testament qui est plus petit qu'un paquet de cigarettes, dans lequel il y a les quatre évangiles et il y a les psaumes. Hein, donc ça, je veux dire, pour ne pas nous raconter d'histoire, tout chrétien doit avoir un psautier avec lui, un évangile avec lui. Ou alors, on ferme, on ne fait plus rien. Quand même. Là aussi, c'est pareil, ce n'est pas à moi à vous dire ces choses-là, vous devez être déjà au courant. Donc, il y a un psautier qui traîne quelque part. Sur 3, 4, 5 personnes présentes, il y en a quand même une qui a le psautier, tout de même. Donc, on aura le psautier. Alors, les autres choses, on ne les a pas. Eh bien, tant pis, on va abréger, on va dire, ah ben oui, mais le psautier que j'ai, c'est un psautier protestant, donc il n'y a pas la répartition des catéchismes à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? Mais ça ne fait rien, tu lis 6 psaumes à la suite, c'est bon. Tu ne vas pas t'embêter, dire, sous prétexte que tu n'as pas les catéchismes, t'abstenir de dire les psaumes. Mais non, soyons intelligents. Dis les psaumes. Tu dis les psaumes que tu trouves là, à la suite. Ou tu l'ouvres comme Dieu l'ouvre, au milieu, c'est pas important, mais tu en lis 4-5. Voilà, ça fera la partie psaume des vêpres. Ça t'enlève pas, ça. Alors, c'est le psaume 103 ou 104 qui est le début des vêpres, ça on sait qu'on ne l'enlève jamais, celui-là. Donc, c'est facile. Après ça, le psaume lucernaire, Seigneur écoute ma prière quand je crie vers toi, ce psaume-là, il est toujours dans l'office des vers. Donc ça aussi, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui ne bouge pas encore? Lumière joyeuse, je dis, ça ne bouge pas. Et le cantique de Simeon, ça ne bouge pas. Et puis les prières initiales au début, donc comme initiale veut dire, c'est au début, effectivement. Et les prières finales, donc à la fin, ça aussi, ça ne bouge pas. Donc le Notre Père, tout le monde le connaît en principe. Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, Trinité toute sainte, tout le monde sait ça. Je suis désolé, je suis peut-être un peu carré, mais le chrétien de base doit connaître par cœur les prières initiales et les prières finales. Voilà, ça veut dire qu'il y a quelque part une négation, mais une inconscience de ce qu'on est. Le chrétien qui n'a pas du tout conscience qu'il est un célébrant. Et donc ça veut dire que la catéchèse n'a pas été faite, l'enseignement n'a pas été fait, que nous les prêtres, moi le prêtre, je n'ai pas fait mon travail pour apprendre. Mais ça, c'est... Les enfants doivent savoir par cœur. Enfin, quand même, oui, ce n'est pas un gros effort de mémoire. Je sais même en roumain par cœur, moi. Je ne suis pas plus malin qu'un autre. Je peux même le dire en slavon, si vous voulez. Je vous dirai en grec. Je ne suis pas... Alors j'en veux dire, oui, mais toi, t'es prêtre. Ça, j'aime pas quand on me dit ça, ça m'énerve. C'est idiot de dire ça, parce que nous sommes tous membres du sacerdoce du Christ. Alors, je veux pas qu'on me dise, ouais, toi, t'es prêtre. Je sais pas où on va, vous voyez. Non, nous sommes tous responsables de l'activité liturgique. Ça, c'est vraiment une idée à laquelle je tiens beaucoup, 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 beaucoup. Je ne sais pas, là, il me reste un petit peu de temps. Je pense que je vais trouver dans une remarque à faire encore sur dans l'office de vêpres, sur les parties qui sont mobiles et qu'on trouve changer chaque jour. D'une part, je me disais, qu'est-ce qui, pour répondre à la question que posent peut-être certains de nos auditeurs de la propédeutique, qu'est-ce qui va changer chaque jour? Ben, ce qui va changer chaque jour, je le répète, ça va être le groupe de psaumes prévu, ce qu'on appelle le catéchisme prévu pour tel jour ou telle fête. Ce qui va changer chaque jour, ça va être également ce qu'on appelle le prokimenon. Alors, qu'est-ce que c'est que le prokimenon? C'est ce qui s'appelle en latin graduel, qui est le chant qui est prononcé, en principe, avant une lecture. Alors, à cause de nos péchés, comme disent les Roumains, parce que les Roumains ne disent pas malheureusement, ils disent din peccate. À cause de nos péchés, les lectures bibliques ont souvent, enfin, majoritairement d'ailleurs, disparu de notre office de vêpres. Mais ce qui est resté, c'est le prokimenon, c'est-à-dire le chant qu'il annonce. Et ça, c'est assez intéressant parce que ce chant du prokimenon, il est différent justement chaque jour. Tout le monde sait que le samedi, c'est le Seigneur règne vêtu de majesté. Ah, tout le monde doit savoir ça. Le Seigneur s'est revêtu de majesté, il a noué la ceinture à ses reins. Donc voilà, les prokimena. Le samedi soir, le Seigneur règne revêtu de majesté. Et après ça, il y a des versets. Le Seigneur s'est revêtu de puissance, il l'a noué comme ceinture à ses reins. Deuxième verset, tu fixes à l'univers inébranlable, ton trône est stable pour toujours. Troisième verset, à ta demeure convient la sainteté, Seigneur, pour la suite des jours. Alors, ce prokimenon est très important parce qu'il appelle, il désigne la résurrection. Le règne de Dieu, il règne comme ressuscité. Il se revêtit de puissance, ben oui, par la résurrection. Son trône est stable pour toujours, ben parce qu'il règne aussi. À ta demeure convient la sainteté, Seigneur, pour la suite des jours, parce qu'il est entré dans son temple. En perfection par la résurrection. Ça, c'est les vêpres, en fait, du dimanche, mais qui sont célébrés, donc, le samedi soir. Hein, ok? Et puis, le dimanche soir. Alors, il y a une particularité le dimanche soir, je vais vous dire laquelle. C'est le dimanche soir, c'est-à-dire les vêpres du lundi, il n'y a pas de catéchisme. Ça, c'est très particulier. La semaine chrétienne commence par une espèce de pauvreté, en quelque sorte, on ne lit pas le psaume. Il n'y a pas de psaume prévu le dimanche soir à vêpres. C'est très, très caractéristique. En revanche, il y a un prokimenon prévu, qui est très beau. Et maintenant, bénissez le Seigneur, tous les serviteurs du Seigneur, debout dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Oui, cette invitation à consacrer la semaine qui commence, puisqu'on dit dimanche soir, à consacrer la semaine qui commence à un service liturgique, un service de prière, la responsabilité du baptisé devant sa semaine. Ensuite, lundi soir, le prokimenon aussi, le Seigneur m'exauce lorsque je crie vers lui. Quand je crie, tu m'exauces, Dieu de ma justice. On est en train de commencer la semaine et on se rend compte que Dieu nous aide dans le travail, dans la famille. On est en train de constater cette manifestation de la grâce. Ça, c'est lundi soir, donc pour le mardi. Le mardi soir, donc pour le mercredi. Seigneur, ta miséricorde m'accompagne tous les jours de ma vie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Ça, c'est pour que ça ouvre au mercredi. Or, le mercredi, c'est le jour de la croix et c'est le jour de la Mère de Dieu. La croix, c'est la houlette du pasteur qui guide. C'est pour ça qu'on a le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Parce que le Christ se manifeste comme pasteur quand il porte la croix pour guider son peuple. Et le ta miséricorde m'accompagne tous les jours de ma vie. C'est l'interprétation aussi de la croix comme signe de la miséricorde de Dieu pour son peuple. Donc c'est très intéressant. Le mercredi soir, ô Dieu, donc mercredi soir, donc en veille de jeudi, d'accord ? Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, fais-moi justice dans ta puissance. Ô Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Alors vous savez que le jeudi, c'est le jour où on prie les apôtres. Et donc ça, c'est, je m'arrête après. fais-moi justice dans ta puissance, c'est vrai que ça peut se rapporter à l'action apostolique de mission dans le monde, à la manifestation de la puissance salutaire du Christ par la parole des apôtres dans le monde. Le jeudi soir, donc avant les vêpres du vendredi, le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, je lève les yeux vers les mondes d'où viendra mon secours. Là, on est dans une dynamique de création. On est en train d'annoncer le thème de renouvellement de la création, toute la dimension cosmique de l'office. Et ensuite, vendredi soir, c'est-à-dire en veille du samedi, ô Dieu, tu es le rempart qui me protège, et ta miséricorde me prévient. Seigneur, délivre-moi de mes ennemis et de mes adversaires, protège-moi. Ces versets sont dits à la fois pour les défunts, pour lesquels on prie que Dieu les protège, les garde jusqu'à la raison universelle, et il est dit également par ceux qui sont célébrés les samedis, c'est-à-dire les ascètes, tous les pères théophores, qui sont justement dans le combat spirituel, à dire ça, ils disent à Dieu, délivre-moi de mes ennemis et de mes adversaires, protège-moi. Donc ça se rapporte vraiment à ce qui est dit, à ce qui est mentionné les samedis, c'est-à-dire la mémoire des saints ascètes. Donc, je vous donnais cet exemple-là, j'avais encore un petit peu de temps. Et donc, ce qu'il dit dans le commentaire ici, c'est que ces procuménas sont invariables, on les trouve tous ces jours-là, sauf s'il y a, disons, une fête particulière dont le procuménon propre va remplacer ce procuménon habituel. Voilà, donc il y aurait bien sûr, ceci c'est une présentation extrêmement rapide de l'office de Vêpres, j'espère que c'est intéressant quand même, et que ça va vous encourager à vous y mettre, et à étudier plus, parce que moi ce que je donne là, c'est un peu les éléments de base, et puis l'esprit un petit peu, je pense quand même, je communique un peu cette mentalité quand même orthodoxe de la célébration, mais après ça vous donne envie de vous procurer le Hieraticon, de lire et d'essayer de mettre tout ça en pratique. Voilà, je vous remercie tous les présents et les invisiblement présents de votre attention. Voilà. Et il est 55, bon, ne soyons pas radins, abandonnons ces 5 minutes. Je regarde s'il y a des... Non, je pensais qu'il y avait peut-être des étudiants qui intervenaient par SMS, mais c'est pas le cas. Voilà. Est-ce que ça vous rend service, quand même? Donc, c'est des choses que vous connaissez, évidemment. Non, pas trop. Ouais.
Malheureusement,
non. C'est-à-dire, ce qui se passe dans nos parois, c'est que souvent, ce qui est à faire est monopolisé par ceux qui savent. Et ça, c'est qui est-ce qui sait? Ben, c'est le prêtre, le diacre qui savent tout, c'est l'homme orchestre, monsieur je sais tout. Et puis les autres qui savent tout, ce sont les gens du chantre, du cœur, les chantres. Et ça, ce sont que des bonnes personnes, hein. C'est pas pour critiquer mes collègues, mais c'est vrai que la tendance est à faire quand on sait faire, et à force de faire quand on sait faire, ben, on ne laisse pas les autres faire, ils n'apprennent jamais, ils ne savent jamais pas. Bon, attends. Et on arrive à une constitution très cléricale de l'Église. Il y a un cléricalisme du cœur, il y a un cléricalisme de moi prêtre, évidemment, et ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est autre chose. L'Église, c'est le peuple de Dieu, ceux qui célèbrent. Chacun a sa place, hein. On est bien d'accord. C'est vrai qu'on parle des offices non presbytéraux, je suis pour qu'on les fasse, mais c'est vrai qu'un office, quand le prêtre est là, c'est vraiment très très beau aussi, parce qu'il y a les grandes litanies qui ne sont pas dites dans l'absence de prêtre. Par exemple, on a le cas de paroisse où il n'y a plus de prêtre actuellement, où il y a des diacres. Alors les diacres m'écrivent, disant, qu'est-ce qu'on fait? Mais rien. S'il n'y a pas de prêtre, le diacre ne fait rien de particulier. Il est comme le plus au courant, disons, du peuple, mais il ne fait pas de litanie, il ne s'habille pas particulièrement, il n'allume pas à l'autel, rien de tout ça. Vous voyez. C'est vraiment la présence du prêtre, en tant que président, ou de l'évêque évidemment, c'est lié au ministère de la présidence. Donc, quand celui qui préside est absent, mais le peuple se réunit, mais de manière plus simple. Le diacre ne préside pas, il sert, c'est autre chose. Oui. Donc, voilà, je pense que ça se rapporte à des cas concrets aussi, tout ça. En tant que doyen, comme je vais dans beaucoup de paroisses, je vois bien ce qui s'y passe, je vois bien comment ça fonctionne. C'est pas toujours très beau. Les offices qu'on célèbre dans nos églises, c'est pas toujours très beau. C'est quelquefois très, très maladroit, un peu bricolé, un peu. Parce qu'on ne sait pas et parce qu'on ne cherche pas à étudier plus aussi. Mais il y a également, je pense, des endroits où les les fidèles, ben, enfin, les paroisses que je pourrais nommer, les fidèles ont la clé de l'église, en l'absence du prêtre, ils vont à l'église, ils célèbrent l'office correspondant, matine, vêpre, même l'office qu'on appelle l'office typique, j'espère qu'on pourra en parler aussi, qui est la première partie de la liturgie, les béatitudes et les antiennes qui sont prévues. Ça, c'est un office qui peut être célébré sans prêtre aussi. C'est très intéressant, hein. Les célébrations, c'est pas une adaptation moderniste comme dans d'autres milieux chrétiens, hein, c'est pas ça du tout, c'est au contraire quelque chose qui appartient à la tradition, qui dit que ce n'est pas le prêtre qui fait la paroisse, mais c'est l'assemblée tout entière, le corps même des baptisés. Parce que même si le prêtre est absent, le Christ lui n'est pas absent. Et donc le Christ étant présent, eh bien on réalise aussi sa présence en se réunissant. Voilà. On arrête, il faut quand même arrêter un moment. Pardon.